Décryptage. Anne Corpet.
Les journalistes du New York Times ont passé 13 mois à consulter des documents d'archives, des registres de comptes et des correspondances diplomatiques sur ce qu'on appelle en Haïti la dette de l'indépendance. L'histoire est connue après leur déclaration d'indépendance en 1804. Les Haïtiens qui veulent définitivement s'affranchir de la puissance tutélaire française entament des négociations. En 1816, le président Pétion fait cette proposition désastreuse de versement d'une indemnité aux propriétaires français. Mais les discussions n'aboutissent pas et en 1825, une escadrille de guerre française débarque dans le port de Port-au-Prince. À bord, un émissaire du roi Charles X impose ses conditions. 150 millions de francs or à verser ou la guerre. Le président Boyer capitule, il signe, mais c'est bien au-dessus des moyens de son pays. La France propose alors d'accorder un prêt avec des intérêts faramineux. Selon le New York Times, les banquiers français prélèvent d'emblée 40% du montant total de la somme octroyée. Le quotidien américain parle de double dette, de rançon. Il a calculé le montant exact payé par Haïti à la France, 560 millions de dollars en valeur actualisée. Le quotidien a traqué chaque paiement effectué par Haïti sur une période de 64 ans, a rencontré les descendants des bénéficiaires, un travail de fourmi. Et c'est sur cette page de l'histoire trop souvent ignorée en France que Décryptage se penche aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en studio avec Constant Méheux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reporter du New York Times à Paris. Merci d'être avec nous. Vous avez participé à cette grande enquête. Et avant d'en parler, je voulais vous faire écouter le sentiment de deux Haïtiens au sujet de cette dette de l'indépendance. RFI avait consacré une émission spéciale à cette question l'été dernier. Et nous avions interrogé Jean Bossuet Filosca, enseignant au CAI, et Jean-Rénal Getty, habitant de Jacmel. On les écoute.
C'est pas un débat qui se fait actuellement en Haïti. Donc c'est pas un débat parce que nous avons tellement de préoccupations par rapport à la vie de chaque jour, par rapport à notre situation sociale, politique délétère, les crimes incessants pour penser, pour réfléchir, pour débattre de ce problème de la dette haïtienne qui, à mon sens, est toujours mal vécu par les Haïtiens. C'est quelque chose que les Haïtiens ont toujours en tête. C'est-à-dire, c'est pas un chapitre qui plaît aux jeunes Haïtiens. On a toujours vécu ça avec consternation, avec honte, avec beaucoup de remontrance.
Je qualifie cette dette comme étant une dette illégitime. Elle a fait ployer des générations, je peux dire. C'est un cas unique dans l'histoire. La seule fois où les vainqueurs ont payé tribut aux vaincus. Donc cette dette illégitime a entravé l'économie haïtienne, étranglé son développement et hypothèque encore l'avenir de notre cher Haïti.
Alors on l'entend, hein, cette page de l'histoire continue de susciter de l'amertume en Haïti, même si la population qui se bat au quotidien pour survivre, pour faire face aux violences des gangs, a d'autres préoccupations. Pourtant, ce que dit le New York Times dans cette enquête, c'est que cette somme faramineuse payée par Haïti, on reviendra sur le montant tout de suite après, a entravé son développement. De quelle manière ?
Alors d'abord, son développement économique, hein, je tiens bien à préciser ça, c'est-à-dire que prenez des pays d'Amérique latine à la même époque, le Costa Rica, qui sont dans des économies relativement semblables, le café, ressource principale du pays. On est à une époque où c'est les investissements dans les ponts, dans l'éducation, dans les hôpitaux, qui vont payer à long terme sur le développement et la croissance économique. Et Haïti est en mesure de faire ça au début du 19e siècle. Elle a une économie qui est basée sur le café, qui est évidemment pas très bien organisée, mais qu'elle pourrait développer comme l'ont fait derrière d'autres pays d'Amérique latine, et va être grévée précisément puisque ses revenus issus du café vont largement en fait servir à financer les paiements aux anciens esclavagistes et les remboursements de la dette. Donc c'est déjà en fait ces paiements-là qui vont peser véritablement sur l'économie du pays et qui vont l'empêcher de faire tous ces investissements aussi qui payent sur le long terme. Entraver aussi d'un point de vue politique, parce que ces paiements, évidemment, ils ne font pas plaisir à la population. Et en 1843, lorsque le président Boyer est justement évincé du pouvoir, c'est aussi en partie une révolte qui est due à ces paiements, c'est-à-dire une population qui se révolte contre ces paiements qui ne cessent d'entraver le développement économique et donc qui vont voir le premier responsable aussi de cela, celui qui a signé le fameux traité en 1825, le président Boyer.
Alors, vous êtes, le New York Times est arrivé à cette somme faramineuse de 560 millions de dollars en valeur actualisée. Comment vous êtes parvenu à ce chiffre ?
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, on a d'abord travaillé sur le fait de traquer les paiements année par année sur la double dette. Donc, ça voulait dire savoir combien en 1838 Haïti avait payé, en 1875, jusqu'à la dernière année de paiement qui est 1888. À partir du moment où on a réussi à faire tout cela, on a une valeur en francs, 112 millions de francs. Et donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement en fait convertir en dollars de l'époque et ensuite impacter l'inflation. Et donc si vous impactez l'inflation, vous arrivez à 560 millions de dollars actuels.
Mais une fois payé cette dette et ses intérêts en 1887, Haïti a continué d'être... n'en avait pas fini avec les créances. Cette spirale infernale a continué combien de temps ?
Alors, il est impossible de mettre une date qui est précise, ne serait-ce que parce que l'argent est fongible. Donc, ce que vous en faites à un moment T peut avoir des conséquences 10 ans plus tard. Vous auriez pu l'utiliser ici ou là. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Haïti, en 1874 et en 1875, contracte de nouveaux prêts. Cette fois-ci, parce que Haïti est sur le point de finir de payer cette fameuse double dette. Et donc, contracte ses prêts aussi pour aider les derniers paiements de cette double dette. Ces prêts sont catastrophiques en termes de conditions, vont plonger Haïti de nouveau dans un cycle d'endettement infernal et perpétuel, auquel vont suivre de nouveaux prêts, 1896, 1910, et enfin un troisième qui est cette fois-ci amené par les Américains, lorsque les Américains prennent le contrôle de Haïti en 1922. Je tiens en revanche à préciser ici que ces autres prêts de 1896 à 1922 ne sont pas liés directement à la double dette. En revanche, certains économistes estiment que, puisque les revenus d'Haïti avaient été ponctionnés précisément par tous ces paiements sur la double dette, alors nécessairement, on revient sur l'argument l'argent est fongible, Haïti était bien obligé d'aller contracter des emprunts, et c'était le cas en 1896, pour essayer de relancer son économie et faire ses fameux investissements.
Alors vous parlez de ce prêt de 1875, et dans son enquête, le New York Times pointe une banque française, le Crédit Industriel et Commercial, le CIC. Quel rôle a joué cette banque ?
Alors, dès 1875, en fait, au départ, ce prêt, il est émis par une autre banque française qui aujourd'hui a complètement disparu depuis des dizaines d'années. Et c'est ensuite que le CIC vient, en partenariat avec cette banque pour reprendre l'émission de cet emprunt et gérer, en fait, tout simplement les paiements année par année. Mais le véritable moment où le CIC vient mettre le pied en Haïti, c'est 1880, au moment de la fondation de la Banque nationale d'Haïti. Pendant des années, Haïti souhaitait justement créer cette Banque nationale, qui est une institution essentielle pour tout pays qui souhaite se développer, n'avait pas réussi à le faire, n'avait pas les moyens de le faire, jusqu'à ce que le CIC, et notamment son directeur de l'époque, Henri Durieux, qui avait déjà monté des opérations similaires en Indochine, par exemple, avec la Banque d'Indochine, voit en Haïti aussi une opportunité, propose de créer cette Banque nationale d'Haïti, un accord est signé, et Haïti pense qu'enfin, le développement est peut-être économique et à sa portée. La vérité, c'est qu'en fait, cette Banque nationale d'Haïti, elle n'a de national, de national que le nom, en fait. C'est une banque dont le siège est à Paris, dont le conseil d'administration sont essentiellement, en fait, des Parisiens, qui n'accordent quasiment aucun prêt aux entreprises et aux commerces haïtiens, et qui s'occupent essentiellement, en fait, de gérer la dette extérieure d'Haïti, et notamment ce fameux prêt de 1875 et les derniers paiements sur la double dette qui, encore une fois, vont durer jusqu'en 1888.
Ça veut dire que, dès le départ, la Banque nationale d'Haïti n'avait aucun pouvoir sur ses réserves ?
La Banque nationale d'Haïti, c'est en fait une filiale, encore une fois, c'est une filiale directement du CIC et de ses actionnaires. La Banque nationale d'Haïti a tout le pouvoir. Mais en revanche, il n'y a aucun Haïtien dans cette Banque nationale d'Haïti. Donc, c'est plutôt Haïti n'a aucun pouvoir sur la Banque nationale d'Haïti.
Alors, l'actuelle maison mère du CIC vous a laissé accéder à ses archives ? Vous êtes entré en contact avec eux ?
Alors, on est rentré en contact avec eux. On n'a pas accédé à ses archives pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont plus d'archives là-dessus. Le CIC a détruit largement ses archives qui datent de l'époque. C'est ce que nous a indiqué l'historien qui avait rédigé l'histoire commandée par le CIC pour ses 150 ans, donc Nicolas Toskov. Donc il était tout simplement vain en fait, d'essayer d'avoir des archives du CIC. En revanche, encore une fois, puisque la Banque nationale d'Haïti était une société enregistrée en France, on a été voir dans des archives françaises, les archives du Monde du Travail qui sont situées à Roubaix, où on a retrouvé du coup tous ces rapports de la Banque nationale d'Haïti qui nous ont permis d'établir les comptes, permis de comprendre combien avait été prélevé à chaque fois sur les finances haïtiennes et ramené en France pour les actionnaires du CIC et les investisseurs français de cette Banque nationale d'Haïti.
Le CIC qui, à l'époque, a participé au financement de la Tour Eiffel, il faut le préciser. Et le CIC qui a finalement réagi aux révélations de votre journal.
Tout à fait. Alors, je dirais plutôt même le Crédit Mutuel, puisque c'est le Crédit Mutuel qui est aujourd'hui propriétaire du CIC. Dès lundi, ils ont publié un communiqué et ensuite on a eu une interview avec eux. Suite à notre enquête, ils ont indiqué qu'ils allaient financer des recherches historiques dans le passé de la banque en Haïti.
Il y a une autre banque qui est pointée dans votre enquête. Elle est américaine. Elle est aujourd'hui connue sous le nom de Citigroup parce qu'il n'y a pas que la France. Wall Street a aussi convoité les richesses d'Haïti.
Oui, ça c'est un point qui est assez intéressant. On connaît l'invasion d'Haïti par les Américains en 1915. Le contexte de l'époque, c'est la fameuse doctrine Monroe. Les Américains ne veulent pas d'une influence française et d'une influence allemande aussi grandissante dans cette partie des Caraïbes et donc envahissent Haïti. Ce que montre aussi notre enquête, qui avait déjà été étudiée hein, par d'autres historiens, mais on apporte quelques détails en plus, notamment chiffrés, c'est que Wall Street tirait aussi largement les ficelles, et notamment cette fameuse National City Bank of New York. Il y a eu une décennie après cette invasion américaine où un quart du revenu public haïtien partait justement dans le remboursement d'une dette qui avait été émise par la National City Bank. Et certains fonctionnaires américains qui étaient sur place en Haïti pour gérer justement ces fameuses finances haïtiennes avaient des salaires qui étaient supérieurs parfois à des lignes de budget du gouvernement haïtien. Donc c'était véritablement un poids économique très important. Pour faire le lien aussi avec ce qui précède et les Français, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la fameuse Banque nationale d'Haïti, elle est refondée en 1910 pour avoir un nouveau nom, la Banque nationale de la République d'Haïti. Les actionnaires changent, ce sont désormais d'autres banques parisiennes, mais surtout la National City Bank qui met un pied dedans et qui va progressivement évincer toutes les autres banques françaises. Autrement dit, on a un mode opératoire qui reste le même. En revanche, on a des acteurs qui, eux, ont changé.
Alors, vous avez rencontré, pour revenir à la dette initiale, des descendants de ces familles françaises qui ont bénéficié des paiements de ces dettes. Qui sont-ils et puis quelle a été leur réaction ?
Alors, on a en tout échangé avec plus de 30 descendants. On a essayé surtout en fait, de retrouver les descendants des familles qui avaient reçu le plus de ces indemnités, donc qui étaient aussi peut-être à même de connaître ce passé, parce que c'était quand même des sommes assez importantes. Dans la très, très grande majorité, ils ne connaissaient pas ce passé. Et ça, c'est assez intéressant, parce que cette histoire de la double dette, qui est encore une fois unique pour un pays, elle n'est même pas connue des propres descendants des personnes qui ont bénéficié de ces paiements. Donc c'est assez parlant. Ils ne connaissaient pas cette histoire. J'ai envie de dire que les réactions étaient assez diverses. Tous étaient évidemment surpris. Certains étaient un peu horrifiés de savoir qu'ils leur famille avait bénéficié de ces paiements. D'autres se considéraient pas responsables et à raison, à vrai dire, de ce passé. Certains étaient d'accord avec l'idée qu'il faudrait peut-être faire un geste envers Haïti. D'autres considéraient que la France n'avait pas besoin de faire ça, qu'elle a déjà assez aidé Haïti. Donc c'est vraiment des réactions assez diverses et je pense que c'est aussi la diversité de ces réactions qui, à mon avis, illustre bien un débat qui a très peu commencé en France, mais sur cette question des réparations, sur ces questions un peu postcoloniales, où on a beaucoup d'avis divergents, mais qui forment un débat qui est assez riche là-dessus.
Mais pardon, mais ce sont des familles qui, en général, ont des archives familiales. Mm-hmm. Elles savaient quand même qu'il y avait un passé esclavagiste parmi leurs ancêtres.
Je vais vous donner un exemple très précis qui est une famille sur laquelle on a particulièrement travaillé, qui est la famille des descendants de Jean-Joseph de Laborde, qui, selon un historien allemand, Oliver Gleick, est celui qui a reçu, enfin plutôt ses deux enfants ont reçu le plus d'indemnités. C'était un des plus grands esclavagistes à Saint-Domingue, le nom d'Haïti à l'époque. Jean-Joseph de Laborde était le banquier de Louis XV, personnage très connu, beaucoup d'écrits sur cette personne. J'ai été rencontrer des membres de cette famille. Les membres de cette famille ont en fait appris cette histoire à travers l'actualité en 2015, lorsque un collectif, le CRAN antiraciste, avait attaqué un des descendants, Ernest Antoine Seyer de Laborde, ancien président du MEDEF,
à ce sujet. Un syndicat patronal.
Voilà. Et donc, ils avaient appris, en fait, tout simplement, ce passé dans l'actualité. J'ai parlé avec beaucoup d'entre eux et j'ai notamment eu accès, en fait, à la, biographie familiale écrite par un descendant de Jean-Joseph de Laborde au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Cette biographie, elle fait 10 volumes. Dans ces 10 volumes, il y a 2 lignes sur les indemnités.
Alors, cette question de la dette a aussi ressurgi dans l'actualité haïtienne. C'était le 7 avril 2003, quand le président haïtien de l'époque, Jean-Bertrand Aristide, s'est saisi du sujet, a exigé des réparations de la part de la France lors d'un célèbre discours. Vous avez rencontré Yves Godel, l'ambassadeur français de l'époque. Qu'est-ce qu'il vous a dit des réactions de Paris à ce moment-là?
Alors, ce que m'a dit Yves Godel, donc, c'est que il était là lors de ce fameux discours, il a entendu Jean-Bertrand Aristide demander les réparations, il a immédiatement pensé que c'était une demande qui pouvait être explosive, je reprends son terme, et qu'il fallait, encore une fois, je reprends son terme, la désamorcer. Il contacte donc sa hiérarchie, il leur explique que compte tenu du contexte aussi post-colonial, c'est quelque chose qu'il faut traiter avec du doigté, et donc il propose d'entamer des négociations, des discussions avec Haïti pour voir voilà, comment ça peut se passer, sans évidemment accéder à la demande des 21 un milliard, mais commencer des discussions.
21 milliards, c'était le chiffre posé par Aristide.
Voilà, exactement. Qui aujourd'hui, du coup, en tenant compte de l'inflation, serait un peu plus autour de 30 milliards en dollars actuels. La réaction, en fait, de la hiérarchie du Quai d'Orsay, selon Yves Godel, c'est tout simplement, on ne parle pas de ce sujet. C'est un silence total et on n'engage pas de discussion.
Alors, Jean-Bertrand Aristide sera finalement évincé du pouvoir en 2004, hein, il faut dire que il y avait une contestation armée, que il était contesté pour ses violations aux droits de l'homme. Il est évincé du pouvoir sous pression conjointe des Américains, des Français et aussi des Canadiens. Entre-temps, un nouvel ambassadeur de France a été nommé à Port-au-Prince, c'est Thierry Burkhard. Vous l'avez aussi rencontré. Et lui, qu'est-ce qu'il vous a dit de cette période?
Alors, déjà, ce que vous venez de dire, à savoir une période très compliquée, beaucoup de violences politiques, beaucoup de crimes qui sont commis dans les rues, beaucoup des rebelles armés, donc un contexte qui est très compliqué. Mais ce qui m'a surtout raconté, c'est cette fameuse nuit du 29 février 2004, lorsque Aristide est poussé à l'exil et il se retrouvera en République centrafricaine. Thierry Burkhard considère que la manière dont cela a été mené équivaut à un coup, c'est le mot qu'il a utilisé. Pour ce qui est du lien entre, je précise que les États-Unis ont toujours nié, comme par ailleurs les officiels français. Donc c'est la première fois qu'un ancien officiel français utilise ce terme-là. Pour ce qui est en revanche du lien entre, du coup, la demande de restitution d'Aristide et le départ d'Aristide, là encore, les États-Unis et la France avaient toujours considéré qu'il n'y avait pas de lien. Thierry Burkhard, lui, considère que c'est, je cite, probablement ça aussi un peu. Autrement dit, c'est évidemment pas la seule raison, mais que ça a pu participer dans cette éviction du pouvoir.
Ça vous a surpris?
Oui, évidemment, ça m'a surpris, ouais, c'est évident. Écoutez, ça m'a surpris, mais c'était quand même notable pour le mettre dans les articles.
Alors, à signaler, pour terminer, c'est que la parution de cette série d'articles du New York Times, qu'il faut le dire, peut-être lu en français, mais aussi en créole, n'a pour le moment suscité aucune réaction de la part des autorités haïtiennes. La classe politique et les intellectuels haïtiens sont tout aussi silencieux. Mais cette série d'articles a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux en Haïti. Merci Constant Méheux, reporter du New York Times à Paris. Merci à Claude Battista qui a réalisé cette émission et à Éléonore Krenik qui m'a aidé à la préparer. Décryptage, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain.
était son